Radio Okapi.
Voici la grande édition de nos informations vespérales dominicales avec Pascal Massirica.
Avant de vous dérouler ce journal, d'abord les titres. 14 tués, dont un soldat des FARDC. Bilan d'une nouvelle incursion des rebelles ougandais de l'EDF ce dimanche dans 4 villages de la chefferie de Wale Sevonkutu, territoire du Rumu en Ituri. Le chargé de communication du diocèse de Kalemie-Kirungu affirme que le pape François arrive mardi prochain en RDC, porteur des messages de réconfort, de réconciliation et de paix. L'abbé Philippe Gachi pense que le Tanganyika en a besoin suite au conflit entre les Twa et les Bantous qui a déchiré la province. Notre invitée, c'est la présidente de l'ONG Leti Eco Bambou et Forêt. Madame Nicole Bunga affirme qu'une pépinière de bambou à transplanter dans 3 territoires du Kasaï oriental sera montée en Mbujimayi. Objectif affiché, restaurer les terres dégradées. Madame, Messieurs, bonsoir. En Ituri, le bilan de l'attaque de ce dimanche matin des rebelles ougandais de l'EDF dans la chefferie de Wale Sevonkutu est passé de 7 à 14 personnes tuées, dont un soldat des FARDC. Après l'incursion dans les villages d'Ofaï, Manyala, Karachini et Bandesende en territoire du Rumu. Parmi les victimes, il y a 10 femmes et un enfant d'environ 2 ans. À Badisende, par exemple, les FARDC ont réussi à tuer 2 assaillants et récupérer leurs armes. Plusieurs habitants de la zone ont quitté le lieu pour se mettre à l'abri du danger. La société civile salue l'intervention des FARDC qui a permis de limiter les dégâts. Les autorités militaires n'ont pas encore communiqué à ces sujets précisément. Au Nord Kivu pendant ces temps, c'est le 4e jour ces dimanches depuis que Kichanga subit l'occupation des rebelles du M23 avec leurs alliés rwandais. La cité de Kichanga se trouve à 80 km nord-ouest de la ville de Goma, chefferie de Bachali, dans les territoires de Masisi. Des sources concordantes dans la région parlent d'un calme précaire apparent qui règne en ce moment dans la région. Aucun coup de feu n'a été entendu depuis hier soir, affirment les mêmes sources. Ces sources indiquent que les rebelles du M23 qui ont quadrillé la cité mènent actuellement des patrouilles diurnes et nocturnes. Ils sont très nombreux et visibles dans la cité. Un déplacé qui a été joint à partir de Mouesso renseigne que les quelques déplacés courageux qui rentrent à Kichanga à la recherche de quoi manger sont interdits par les rebelles de retourner dans leur lieu de refuge. Il parle de prise d'otages et des habitants, ce qui augmente la peur et les inquiétudes des déplacés qui du reste meurent de faim dans les lieux de refuge. Nord Kivu, encore des centaines de familles de la cité de Kichanga vivent en ce moment un calvaire dans les lieux de refuge à Mouesso, localité située à environ 15 km au nord de Kichanga. Ils ont fui jeudi dernier les combats qui ont opposé les FARDC aux rebelles du M23 et l'armée rwandaise. Ces déplacés qui sont exposés aux intempéries et aux maladies diverses plaident pour une intervention urgente du gouvernement central. Explication avec vous, Pele Kipelamondo.
Environ 90% de la population de Kichanga ont abandonné leur domicile pour se mettre à l'abri. Des centaines de ménages ont pris d'assaut des écoles, églises ainsi que les stades Bilombé de la localité de Mouesso. Certains sont hébergés dans des familles d'accueil, d'autres passent la nuit à la Belle Étoile, affirme une autorité administrative joint sur place à Mouesso. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de toilettes et de soins médicaux. C'est le calvaire total que traversent ces déplacés qui sollicitent l'intervention urgente du gouvernement et de ses partenaires. 5 cas de maladies diarrhéiques sont déjà enregistrés parmi les enfants déplacés. MSF, l'ONG Action contre la faim ACF et les relais communautaires sensibilisent sur le respect des règles d'hygiène dans ces lieux publics. La situation de précarité est identique pour ceux qui ont fui vers Kalembe, Kashuga, Mongozi et Pinga. Par ailleurs, les contingents des casques bleus de la MONUSCO, basé à Kichanga, apporte son appui en protection, logistique et en eau à des dizaines de ménages qui ont trouvé refuge à la base de la mission onusienne sur place à Kichanga. Pour ce faire, 5 tentes sont construites par les contingents marocains. Rappelons que c'est depuis jeudi dernier que les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais occupent la cité de Kichanga après les combats qui ont jeté sur les chemins d'exil des milliers de personnes.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, la fièvre monte à Kinshasa particulièrement. La capitale de la RDC se prépare à accueillir mardi prochain le pape François. Les provinces ne sont pas en reste. En effet, des moyens techniques sont prévus pour ainsi permettre à tous les Congolais de suivre l'événement. En réaction, le chargé de communication du diocèse de Kalemie-Kirungu dans la province du Tanganyika affirme que le Saint-Père arrive en RDC avec un message de réconfort, de réconciliation et de paix. Il indique que la province du Tanganyika en particulier a besoin de ces messages car elle a été déchirée par un conflit entre les Twa et les Bantous. L'abbé Philippe Gachi est au micro de Paul Emunanga.
Les grands messages au niveau local, au niveau du diocèse de Kalemie-Kirungu. D'ailleurs, c'est ça même les messages de notre père l'évêque, Monseigneur Jean-Christophe Amadé Aloma, et que tous les pères évêques sont en train de donner aux ouailles, aux chrétiens catholiques, aux chrétiennes catholiques, et même aux hommes de bonne volonté, c'est un message de réconfort. Parce que le pape lui-même vient nous apporter un réconfort moral, spirituel. Et il y a aussi un message de réconciliation. Nous avons connu des moments vraiment des atrocités, des conflits entre Toi et Bantou, et les évêques ne cessent de faire des messages de réconfort, de réconciliation. Non seulement un message de réconciliation, mais un message aussi d'exhortation à la paix. Nous devons cultiver la paix. Dans les Tanganyika, le message de la paix, c'est un message qui est encore d'actualité. Parce qu'il y a encore des zones où les conflits sont encore latents, les conflits sont encore très visibles. Comme à Nyunzu d'ailleurs, il y a même ceux-là qui ne sont pas en mesure aujourd'hui de rentrer dans leurs entités d'antan. Ils sont toujours casés dans les sites de déplacés ainsi de suite. Ça signifie que, quelque part, il y a encore des poches d'insécurité.
L'actualité, c'est aussi la poursuite de l'assainissement de la fonction publique en RDC. Au moins 112 000 cas à problème sont réglés progressivement. Parmi eux, des agents de l'État décédés depuis plusieurs années et dont les salaires et primes sont versés mensuellement. Il y a également des fictifs. Déclaration faite à la presse vendredi après-midi à Kisangani par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou affirme que beaucoup de progrès ont été réalisés depuis le début de la réforme du secteur. Ont été recueillis par Jacques Moukonkolé.
Nous avons essayé d'enclencher des processus, essayé de faire quelques pas, mais moi, dans ma tête, beaucoup reste encore à faire. Ah ouais, tous les défis sont des défis colossaux, des défis existentiels, systémiques. Ce sont des problèmes qui ont pris racine depuis des années dans notre pays. On ne vient pas avec la prétention en une année, deux ans, tout résoudre. Mais par contre, je me satisfais du fait qu'on ait pris conscience. Je me satisfais du fait que dans les dialogues avec les fonctionnaires, c'est peut-être ça, la magie, parce que les dialogues a pu nous mettre au même niveau de compréhension, dans une même dynamique avec les fonctionnaires et les organisations syndicales. Et cet élan d'ensemble ouvre certainement la voie à des horizons nouveaux, en tout cas un chemin qui va nous mener tout droit vers une nouvelle espérance. Mais tout reste encore à faire. Tout ce que je vous ai dit en matière d'identification, en matière de maîtrise des effectifs, en matière des retraites, en matière d'amélioration des conditions sociales, en matière des rajeunissements, en matière d'amélioration des conditions de travail, en matière de l'inclusion salariale. Ce sont des défis qui sont encore là, sur la table, que nous devons achever.
Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, séjourne à Lubumbashi depuis hier samedi après sa rencontre avec le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Denis Kadima a appelé tous les Congolais à s'enrôler massivement et surtout à ne pas attendre le dernier jour pour le faire. On l'écoute dans ses propos sélectionnés par Jean Ganduka Bongo.
Je suis ici dans le cadre de l'enrôlement des électeurs pour avoir des idées précises sur le processus d'enrôlement des électeurs. Au-delà de ça, je voulais aussi comprendre comment la sécurité de ce processus est garantie par les autorités provinciales. La CENI est vraiment engagée à réussir ce processus. Et nous ne pouvons pas réussir ce processus nous seuls. C'est un processus des Congolais. Donc nous avons besoin de l'apport de tout le monde, de la contribution de tout le monde, les requérants, les partis politiques, la société civile, les autorités publiques. Nous avons besoin de tout le monde parce que c'est un exercice citoyen qui va aboutir pas seulement à la délivrance de la carte d'électeur, mais aussi de la carte d'identité nationale que nous n'avons plus depuis des décennies. Donc c'est important que les Congolais et les Congolaises viennent s'enrôler en masse et qu'ils n'attendent pas la dernière minute parce que ce processus ne va durer que 30 jours.
Faisons un détour par le Congo central où la prolongation de 25 jours de l'identification et d'enrôlement des électeurs ne semblait pas profiter aux requérants. C'est ce que pense en tout cas le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Manzangungu. Les vieux Mbiavanga fustigent le désordre et le dysfonctionnement constaté dans deux centres d'enrôlement parmi les six que compte la cité de Lukala. Amadadi, la correspondance de Nana Plurich Mambou.
Les deux centres d'inscription et enrôlement des électeurs inopérants sont ceux organisés à l'Institut La Persévérance de Lukala, situé au quartier Ntondi dans la cellule 2, et à l'Institut Lukala Ngemba. Au premier centre, il y a rupture des cartes imprimées. Dans les deuxièmes, la nouvelle société civile de Lukala parle d'une panne de machines survenue depuis une semaine. Il ne reste que 4 centres d'inscription opérationnels sur les 6 organisés dans cette cité pour enrôler ses habitants estimés à près de 50 000, ou même la moitié de ceux-ci ne s'est pas encore fait enrôler. Une situation qui inquiète la nouvelle société civile nationale. Lévien Biavanga en est le coordonnateur local.
Nous émettons des inquiétudes par rapport à cette prolongation. Ça risque de ne pas profiter. C'est-à-dire, il y a des nombres de centres qui sont réduits et puis il y a des engouements dans des centres qui sont encore opérationnels et ça crée des désordres, des bagarres. Nous demandons aux autorités de la CENI de vite décanter cette situation.
Contacté, le secrétaire exécutif provincial de la centrale électorale du Congo central indique que cette situation sera décomptée sous peu. Bernardine Kitondo affirme qu'un technicien a déjà effectué les déplacements de Lukala pour prendre en charge les problèmes techniques. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Nous voilà maintenant en Mbujimayi où le grand marché de Bakwadianga dans la commune de Dibindi a été partiellement incendié cette nuit. Le bilan fait état d'importants dégâts matériels. L'origine du feu n'est pas encore connue. Le maire de la ville affirme qu'une enquête est ouverte afin d'élucider les circonstances du drame. Et puis vers zéro, transmission de la lèpre par un dépistage précoce des cas dans nos communautés locales. Tel est le thème de la 70e journée mondiale de la lèpre célébrée ce dimanche. En RDC, cette maladie reste une réelle préoccupation de la société qui nécessite l'attention de la communauté nationale. Déclaration faite par le directeur du programme national d'élimination de la lèpre. Florence Ngondou appelle le gouvernement central à allouer des moyens conséquents pour atteindre l'objectif zéro transmission de la lèpre d'ici 2030. Florence Ngondou le dit à Paul Matendo.
Concrètement, d'après les données que l'OMS a publiées en 2021, nous sommes 4e pays au monde en ce qui concerne la détection. Nous avons dépisté 4148 nouveaux cas de lèpre. Si on classe les pays, il y a l'Inde, le Brésil, l'Indonésie. La RDC vient en 4e position. En Afrique, nous sommes avec ces chiffres-là, les premiers pays en Afrique. Donc vous voyez que la lèpre est encore un grand problème au Congo et que pour atteindre la vision de l'OMS qui voudrait que d'ici 2030, nous puissions atteindre zéro cas de lèpre, zéro infirmité, zéro stigmatisation, nous devons vraiment travailler. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est nous voulons que le gouvernement puisse faire encore beaucoup plus pour le fonctionnement, les investissements, pour lutter vraiment contre la lèpre. Il y a des partenaires qui sont là, mais leurs moyens aussi sont limités.
Actualité internationale.
Ce dimanche, ça fait 7 ans jour pour jour que le journaliste malien Birama Touré a disparu selon une enquête menée par Reporters sans frontières en 2022. Le reporter du journal d'investigation Le Sphinx serait mort des suites des sévices infligés lors de sa détention au secret dans les locaux des services de renseignement en 2016. Il y a eu élection ce dimanche en Tunisie. Près de 8 millions d'habitants sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives. Un scrutin qui se déroule dans un contexte économique et politique morose, alors que l'opposition a décidé de ne pas y participer. Et puis le chef de la diplomatie américaine est arrivé ce dimanche au Caire pour une tournée éclair en pleine flambée des violences israélo-palestiniennes avec un mince espoir d'user de l'influence des États-Unis d'Amérique pour tenter d'apaiser les tensions. Avant Jérusalem et Ramallah, lundi et mardi prochain, Anthony Blinken rencontrera le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. L'Égypte est un intermédiaire historique entre Palestiniens et Israéliens. La situation dans les territoires occupés sera au menu des discussions.
L'invité.
Le Kasaï-Oriental est la province pilote dans le projet de restauration des terres dégradées et pour cela, une délégation mixte composée du Fonds National Forestier et l'ONG Leti Eco Bambou et Forêt séjourne en ce moment en Bujimaï pour monter une pépinière des bambous à transplanter dans 3 territoires du Kasaï-Oriental en vue de restaurer les terres dégradées. Notre invité pour en parler, c'est la présidente de l'ONG Leti Eco Bambou et forêt, Nicole Bunga, est interviewée par Esther Ndalafina.
Bonjour, Madame Nicole Bunga. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici en Bujimaï au Kasaï-Oriental?
Bonjour, Madame Esther. Je suis avant tout présidente fondatrice de Leti Eco Bambou et Forêt, donc l'Ecobaf en sigle. Donc Leti Eco Écologie Bambou et Forêt. Je suis également depuis 2018 ambassadeur mondial du bambou, nommé par l'Organisation mondiale du bambou. Mon séjour avec la délégation que je conduis se justifie par un projet qui est dans l'esprit depuis un certain temps, un projet de cartographie, état des lieux du bambou en RDC en vue de restaurer les terres dégradées et de lutter contre la pauvreté. Nous avons eu l'année dernière, entre mai et mois d'août, à sillonner les 3 provinces pilotes, donc à savoir le Kasaï oriental, Kasaï central et Congo central. Nous avons mené une étude de faisabilité et cette fois-ci, nous sommes venus, en ce premier mois de la nouvelle année, commencer par la première province, c'est significatif, du Kasaï oriental, afin de lancer cette campagne de restauration des terres dégradées. La terre a besoin, essentiellement ici au Kasaï oriental, d'être régénérée, d'être réveillée, afin de pouvoir offrir que le milieu, qu'elle soit plus propice à certaines cultures, voilà, culture vivrière en l'occurrence. Et toujours, ce manque de culture favorise la pauvreté.
Vous avez déjà fait quelques jours ici en Bujimaï. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à l'état des lieux du bambou au Kasaï oriental?
Nous sommes arrivés lundi 23. L'étude a été menée déjà l'année dernière. Ici au Kasaï oriental, on a trouvé 2 sortes de bambou, le vulgaris, le bambou vert, ce qu'on appelle bambou commun, bambou de Chine, et il y a aussi le vitata, qui est le bambou jaune, qu'on voit le plus souvent. Les 2 bambous sont propices à plusieurs sortes de transformations, mais nous allons importer un bambou, le mosso, ou le phyllotaskis, enfin je dis le mosso, c'est le nom commun, qui servira un peu plus par rapport, et surtout aux dames, aux charbonniers, par rapport à la transformation en briquettes de braise. Voilà, c'est un peu ce que nous avons trouvé. Alors, je suis accompagnée donc d'une délégation, dont un professeur, un expert scientifique. Et je tiens à préciser, nous sommes une ONG avec préservation de l'environnement comme souci, produit phare, le bambou. Mais nous sommes soutenus par l'État congolais à travers le Fonds forestier national, le FFN, avec un peu l'idée globale qu'on appelle reboisement. C'est une façon de parler, reboisement. Le bambou est une plante, c'est pas un arbre avec lequel on va reboiser, mais en fait c'est une alternative parce que nous avons remarqué que ici c'est plus la savane, il n'y a pas tellement de forêt, ça va donner plus d'émulsion à la savane au niveau environnemental, avoir moins de soucis plutôt par rapport au changement climatique, parce que c'est une campagne nationale qui va couvrir toute l'étendue de la RDC.
Madame Nicole, qu'allez-vous faire pour avoir une quantité importante de bambou pour la transformation ou soit pour être régénéré?
La campagne de restauration commence par la plantation de bambou et on ne peut pas planter le bambou sans constituer une pépinière. Donc une pépinière va être constituée ici à Mbujimaï. Nous avons trouvé justement un endroit aujourd'hui propice, accessible. Et une pépinière sera installée à partir de ce lundi. Nous allons commencer les travaux afin de pouvoir couvrir tout le Kasaï oriental. Mais quand je dis tout le Kasaï oriental, c'est pas, il y a des milliers et milliers d'hectares. Donc nous allons mener le projet progressivement. Nous commençons par une 20aine d'hectares et ainsi de suite, selon les moyens financiers qui seront mis à notre disposition, nous allons évoluer. Mais ça se fait en fait, Rome ne s'est pas construit en un jour. Nous allons aller étape par étape. Il faut être patient. Le bambou met à peu près 2 à 3 ans pour arriver à maturité. Et la meilleure maturité, surtout pour la construction, c'est 5 ans. Mais entre 2 et 3 ans, on peut déjà effectivement utiliser le bambou pour certaines transformations. Vraiment avec la pépinière pour commencer à couvrir petit à petit. Ce qui existe n'est pas suffisant pour mener de grands projets. On peut commencer, mais ce n'est pas suffisant. Sachant que le bambou est un organisme vivant, une plante miraculeuse qui, à peine coupé, se régénère. C'est plus flexible que l'acier. Ça peut ployer, mais ça se brise pas.
Après la pépinière, qui auront accès à ces bambous?
Après la pépinière, donc, les bambous seront transplantés dans 3 territoires, Kabea Kamwanga, Miabi et Lupatapata. Ce sera pour l'instant dans ces 3 territoires. Et il y aura donc justement une équipe de personnes du Kasaï ici oriental qui feront le suivi. Nous avons hier organisé la formation théorique des formateurs. Donc, ces formateurs formeront à leur tour c'est une chaîne. Et hier, nous avons été visiter des sites pour voir où installer la pépinière. Et c'est plutôt aujourd'hui que nous avons trouvé un site qui nous convient à tous.
Madame Nicole Bunga, je vous remercie.
C'était l'invitée de Radio Okapi, Madame Nicole Bunga, la présidente de l'ONG Leti Eco Bambou et Forêt. Elle a été interviewée par Esther Dalafina. À Kinshasa, il est 18h20. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à belle équipe Elamondo qui m'a accompagnée.